ceux qui, ou plutôt je vais le dire comme ça, ceux qui n'ont pas reçu ces trois feuilles, soit au mois de septembre, soit au mois de septembre, janvier, fin septembre ou début octobre, dans un texte, c'est extrait d'un texte que j'ai envoyé qui s'appelle le veil de l'aliénation, de la séparation. Il y a trois feuilles que j'ai renvoyées la semaine dernière à ceux dont j'avais l'adresse. Avec une quatrième feuille. Donc j'ai envoyé quatre feuilles la semaine dernière, plus le texte, justement, qui datait de septembre. Alors ceux qui n'ont pas ces feuilles dans leur ordinateur, je propose de m'envoyer un email, mon adresse email vide, et par retour du courrier, je vais vous envoyer. Alors, ça s'appelle peejmv3@gmail.com. Voilà. Voilà. Je vais écrire en dessous pour recevoir les documents. Bon, nous allons parler ce soir. Donc, je vais. Alors, le quatrième texte que j'ai envoyé, c'est à cette planche-ci, elle est là. Elle est juste inversée, c'est pas qu'elle est inversée comme ça, c'est que la ligne d'au-dessus est en dessous. Les disques trouvés sont au-dessus et les diagrammes qui correspondent sont en dessous. Donc ici, je les ai mis au-dessus parce qu'ils correspondent à la synchronie. Ils correspondent, disons, à la version dans la synchronie de ce mouvement diachronique. Donc c'est un exemple parfait, comme je l'ai dit la semaine dernière, d'un rapport synchronie-diachronie où la diachronie est entièrement contenue dans la synchronie. C'est un rêve de linguiste. C'est un idéal de linguiste. Saussurien, ou jacobsonien. Il est évident que ça ne se passe pas comme ça, mais je vous ai remarqué la semaine dernière que c'est bizarre que pourquoi pas se donner une occasion où ça marcherait bien, ce que dit Saussure, pour réfléchir pourquoi ça ne marche pas en matière de langue. C'est. Soit ils veulent être réalistes, alors ils veulent absolument que ça ne marche pas, ils s'intéressent qu'aux trucs qui ne marchent pas, soit ils considèrent que c'est idéaliste de supposer que ça pourrait marcher. Ben non, ça peut marcher, mais évidemment que ça marche dans un cas qu'il faudrait spécifier. Il faudrait dire pourquoi ça peut marcher dans ce cas-là, dans ce type de cas, dans ce type de problème. Et ce problème, ça s'appelle la séparation. Le problème qui s'appelle la séparation. Alors on va faire des calculs aujourd'hui pour essayer de préciser cet opérateur que Lacan appelle séparation. Il dit que c'est une opération, c'est la deuxième opération qui cause le sujet. J'ai déjà mis sur Internet le texte qui définit l'autre opérateur, le premier qui définit Lacan, qui s'appelle l'aliénation. Et ça, je reprendrai ces aliénation, séparation et le schéma de Lacan, et la question du schéma R, du schéma L et du schéma I, la semaine prochaine pour conclure, parce que je ne sais pas encore s'il y aura une quatrième leçon. Bon, alors, donc il s'agit de deux disques troués. Je ne les ai pas amenés, hein, les modèles physiques ce soir. Je n'ai pas amené les disques en plastique, jaune et bleu, et j'ai dessiné au tableau les disques à la craie, rouge et vert. Parce que dans mon chromatisme,
dire que c'est vraiment pas le modèle physique qui m'intéresse. Dans mon chromatisme à moi, la superposition du vert et du rouge, ça donne du bleu. Enfin, c'est comme ça que j'ai dessiné les couvertures des fascicules de résultats avec la bande de plus ou les nœuds boréens pour étoffe ou pour nœud. Et c'est comme ça que je dessine les schémas, depuis longtemps, les schémas R, L et I de Lacan. Dans les livres qui sont en noir et blanc, j'en vois la hachure pour le bleu, c'est-à-dire que j'ai conservé les hachures pour le bleu, puisque dans le schéma R de Lacan, la zone dite réalité psychique est hachurée en noir et blanc. Et puis j'ai choisi une trame claire pour le vert et une trame grise plus foncée pour le rouge, dans le corps du livre, de tous les fascicules. C'est quelque chose qui est fixe, c'est un choix de couleur. C'est un choix de couleurs rouge et vert, c'est les couleurs taoïstes que Mao a repris pour l'armée rouge chinoise. Donc, c'est pour vous dire que vraiment.
C'est foncé.
Non, c'est surtout que c'est le Tao Te Ching qui est le plus intéressant. C'est les couleurs taoïstes. Et puis. Le bleu, c'est parce qu'à un moment donné, Lacan, dans ses séminaires, justement, il colorie en rouge et vert. Ça, c'est, il met en vert le symbolique, en rouge l'imaginaire, et la réalité psychique ou le réel, c'est ça la discussion, il le met en bleu. Alors, du coup, j'ai adopté ces couleurs. Le quatrième rond, là, qui est le symptôme de Freud, le symptôme de Lacan, donc, eh bien, il est en noir. Et c'est ce qu'on discutera la semaine prochaine, c'est comment s'acheminer vers une reprise grâce à ses calculs et grâce à ses figures du simple, tout ce que Lacan a fait sur la psychose à partir de Freud, c'est-à-dire le symptôme psychotique tel que Freud le conçoit en dit qu'il l'a surmonté, qu'il a réussi là où Paranoïaque échoue, ce que j'appelle le symptôme de Freud, avec la réalité psychique qu'il ajoute comme quatrième rond, symptôme de Freud qui devient le symptôme de Lacan, quand dans le symptôme, Lacan va définir à nouveau frais la psychose paranoïaque comme personnalité et le traitement comme. Cette interrogation sur la relation qu'entretiennent les deux traits de la psychose et la chaîne borroméenne qui écrit la structure. Moi je proposerai la formule suivante de l'endroit où je voudrais vous inviter à avancer, c'est qu'il y a un traitement de la psychose qui consiste à reconstituer dans le délire, dans l'absence de lecture, dans le transfert sans lecture, c'est un délire ou un acting out, c'est-à-dire un transfert sans analyse. Bon, Lacan, quand il parle de l'acting out, il prend toujours l'exemple de Chris avec l'histoire de la cervelle fraîche. Alors, évidemment, ça ne fait pas du tout délire psychiatrique, grande somptuosité imaginaire, de l'effervescence. C'est une définition structurale de la psychose. Le délire, c'est un acting out, c'est un transfert, il faut bien distinguer ça du transfert, c'est un transfert sans lecture, sans analyse. Et c'est donc très fréquent, surtout dans l'analyse, puisque le transfert, ça se produit automatiquement. Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'analyse de transfert, il y a beaucoup de délire. Donc, cette question du traitement de la psychose, ça intéresse n'importe quelle analyse. Ce n'est pas réservé à des gens plus ou moins mal élevés qui se tiennent mal à table, qui bavent un peu partout. On appelle dans les hôpitaux psychotiques, parce que je ne sais pas de quoi on parle. La psychose freudienne, c'est Schreber. Le traitement de la psychose freudienne, c'est Freud, qui ajoute une suppléance à la chaîne de Schreber des faits, c'est ce qu'on va voir avec ces schémas, On va revoir ça avec une nouvelle lecture grâce à ces couleurs qui apparaissent dans les schémas de Lacan qui commande Freud. Et ensuite, on se posera la question, qu'est-ce que Lacan fait dans le symptôme? C'était l'objet de ce cours il y a deux ans auparavant et pendant deux ans, une année au Collège international de philosophie, et puis un peu plus, un peu avant et un peu après, j'ai traité pendant deux ans du séminaire Le Symptôme, ici et à Buenos Aires. Donc il y a des versions de ça en espagnol. Alors, je suis parti dans le symptôme de la notion que Joyce est hystérique, psychotique, et c'est le chrétien qui dit psychotique. Ça veut dire que ceux qui ne savent pas lire, c'est justement ceux qui délirent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas lu Schreber et n'ont pas lu Joyce. Parce que si vous lisez Schreber, il se demande comme ça serait beau d'être une femme en train de subir l'accouplement et qui se met des boucles d'oreilles, torse nu, le président qui gonfle sa poitrine pour essayer d'avoir les mamelles, et ben c'est pas la même chose que Joyce si vous lisez Ulysse, et c'est même si vous lisez Finnegan's. C'est pas parce que Finnegan's ça plaît pas aux Français qui comprennent rien à ce livre écrit en 16 langues que Joyce est psychotique. Il faut arrêter toutes ces insultes. C'est aussi vrai pour les névrosés et pour les pervers, d'ailleurs. Il faudrait un peu dire de quoi on parle. Donc, moi, ma proposition, elle est de dire que Joyce n'est pas psychotique parce que Joyce n'est pas une drag queen. Vous pouvez regarder la formule. Si vous voulez avoir quelque chose à quoi tenir, réfléchissez à ce que je veux dire par là. Je veux dire par là que Schreber, il voudrait être la femme de Dieu. Joyce n'est pas psychotique parce qu'il n'est pas une drag queen. Le président Schreber est une ébauche drag queen.
Il est quand même gonflé, Schreber.
Comment?
Il est quand même gonflé de Schreber. Il est militant du tribunal.
Non, il n'est pas gonflé. Il est formidable, mais le problème c'est que. Il est pas tellement. À son époque, c'est déjà pas mal. Il a écrit les mémoires d'un névropathe. Il a donné un texte. Lisez le texte. Ce qu'il attend, c'est que vous pouvez faire la différence entre le texte de Schreber et puis, par exemple, la montée au Carmel ou la nuit obscure de Saint-Jean de la Croix. C'est pas du tout pareil. Bon, ça, c'est pour vous habituer, parce que Joyce, ça sera peut-être plus difficile pour vous de le lire. Mais aussi bien dans Ulysse que dans Finnegan's, Lacan spécifie dans son écrit sur Joyce le symptôme. On arrête de mélanger symptôme et symptôme sans savoir de quoi on parle. Le symptôme, c'est l'écriture de l'ancien régime, du régime féodal, avant la coupure thomiste. C'est la manière d'écrire quelque chose qui s'écrit en latin symptôme. Et quand on a injecté les lettres grecques du fait de la découverte des textes philosophiques en grec et de la naissance de la philologie, tout ça va nous conduire à l'Érasme, on appelle la Renaissance, non? Là, on injecte dans le français des caractères grecs. Et on commence à écrire beaucoup de mots français avec ces lettres grecques. Et donc, c'est un nouveau régime d'écriture. Et comme le dit Marx, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? C'est un ancien système de production qui survit dans un nouveau système de production. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un symptôme écrit en grec? C'est la présence d'un symptôme écrit en latin. Ancien système de production caché derrière le nouveau système de production. Donc il faut distinguer dans le symptôme. Et je dis que la théorie de la psychose chez Freud, à partir du cas Schreber, c'est le symptôme, ce qui s'appelle la suppléance, la réalité psychique qui lui permet de faire tenir la chaîne. C'est la suppléance, c'est le symptôme de Freud. Lacan le dit explicitement dans le séminaire RSI, l'année avant le symptôme. Et ensuite, quand il aborde son séminaire Le Symptôme, eh bien, il construit, lui, un nouveau système de production de la psychose, qu'il appelle psychose paranoïaque égale personnalité. C'est la même chose. Il dit qu'il s'est trompé, qu'il n'était pas au cristal de son style dans sa thèse, quand il a intitulé sa thèse, la relation, le rapport qu'il y a entre la psychose paranoïaque et la personnalité. Lacan nous dit, dans Le Symptôme, il nous dit, Il n'y a pas de rapport parce que c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une psychose paranoïaque lacanienne, hein, symptôme pour Lacan, c'est la personnalité. Et il identifie cette personnalité, ce symptôme, cette paranoïa lacanienne comme personnalité, cette psychose paranoïaque, il la spécifie, il l'écrit comme le nœud trèfle. Le nœud trèfle, c'est ce à quoi nous reviendrons. C'est un nœud propre, c'est d'un seul fil dans lequel une partie de la chaîne borroméenne a été détruite. Et donc il y a une nouvelle écriture de la forclusion, c'est la destruction de cette partie de la chaîne borroméenne qui fait que, au lieu d'avoir trois ronds noués, nous avons un seul rond noué. Et il y a plusieurs manières de montrer la destruction, mais en particulier vous obtiendrez ceci si vous détruisez par exemple ce triskel ou celui-ci, mais surtout celui-ci. Pour obtenir ça, il faut mieux détruire celui-là pour avoir les mêmes passages dessus-dessous, parce qu'il y a une dualité. Donc si vous intervenez sur un triskel, si vous détruisez un triskel, un endroit où justement Lacan met l'objet A, la lettre A, eh bien c'est un fait de forclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de rejet de la lisibilité. La psychose, je vous répète, un délire, c'est un transfert sans analyse, sans lecture. Qu'est-ce que c'est que la forclusion? C'est le rejet de la lisibilité, le rejet de la lecture, le rejet du fait que pour lire, il faut inventer ce qu'on lit. D'ailleurs, pour écouter aussi. C'est pour ça que l'écoute, vous savez, moi je pense que c'est de la lecture dont il est question. Parlons de lecture, que ce soit du côté du signifiant des oreilles ou du côté de l'écriture, c'est-à-dire du champ scopique, du regard. La lecture, au sens de la question de la topologie, ça va être comment justement le signifiant et la lettre se croisent, se capitonnent, se rencontrent et puis se traversent. Donc, il y a quelque chose qui est un rejet de la lisibilité, et vous voyez que notre civilisation est particulièrement psychotique, délirante, et rejette et veut détruire la lisibilité. Oh, ça, on n'a jamais vu ça avant. Il y avait peut-être des pogroms, justement, mais les nazis, ils ont inventé Auschwitz, ils ont voulu détruire le peuple juif intégralement, délire complet, que les autres ont laissé faire. Et ensuite, même les Américains, je ne fais pas du tout l'amalgame entre les deux, mais ils ont détruit un peuple de l'écriture et de la lecture qui s'appelle les Japonais, hein, qui étaient même des alliés d'Hitler, ce qui vous prouve que la politique, vous voyez, quand je disais la dernière fois que je n'étais pas démocrate, moi je suis anti-autoritaire. Et je ne suis pas démocrate pour autant. Le problème serait comment éviter la démocratie et l'autoritarisme. Et de la même manière, en matière de politique, moi je vous invite à regarder de plus près le fait que les alliés d'Hitler, c'est quand même un peuple, en dehors du fait qu'il s'était mis 300 ans en stand-by là, de l'industrialisation. Hein, Kogel dit que les Japonais, c'est le peuple le plus snob du monde, plus snob que même les fermiers anglais dans leur country. Hein, et les petits nobillons anglais, les Japonais le plus vulgaire d'entre les Japonais, est un personnage plus snob que n'importe qui dans le monde. Pendant 300 ans, ils ont refusé l'industrialisation. Et ils sont rentrés là-dedans. Ils ont reçu deux bombes atomiques sur la gueule. Eh bien, moi, je note que Lacan nous dit, le japonais, c'est une langue qui s'écrit avec une écriture spécifique et qui s'écrit et se lit de telle manière que le japonais, par exemple, de la tradition, celui qui lit Unyomi et Kunyomi, il n'a même pas besoin de la psychanalyse, il est déjà arrivé. À ce qu'on peut faire de mieux d'une analyse, c'est apprendre à lire pour arrêter de délirer, pour arrêter d'être justement paranoïaque. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout la même chose que la destruction des Juifs d'Europe, notez-le bien. C'est la même chose sous l'aspect des peuples, de l'écriture et de la lecture, c'est la Bible, et les nazis supportent pas que le psychotique ne supporte pas que lire, n'est-ce pas? Tout le service n'est pas compris. Il y a quelque chose qui reste à l'appréciation de la clientèle. Et vous voyez, moi je tiens que service compris, c'est de la psychose. Et l'espèce de monétarisme actuel et l'espèce aussi de comptabilité, et maintenant même la question des évaluations. Je vous fais remarquer que les psychotiques dans la psychanalyse confondent évaluation et topologie et mathématiques. Ce qui est quand même embêtant, hein, parce que dès qu'ils voient des mathématiques, ils croient que c'est du numérique. Et les mathématiques, c'est pas du numérique. Regardez ici, il y a des chiffres, hein, j'ai mis 3, 6, 6, 5, mais il y a des lettres. Hein. Les mathématiques, c'est de l'écriture. C'est pas forcément de la mesure, d'abord, ça c'est euclidien. Et la topologie, c'est même pas de la mesure. Et en plus, c'est de l'écriture, c'est du chiffrage, de la labellisation. Mais pas du code. C'est du langage. C'est de l'écriture. Mais l'écriture n'est pas un duplicate de la langue parlée. Voilà, ça, il faut vous défaire de cette idée. L'écriture, c'est que ça a une inertie propre, et la parole a une autre inertie qui est inverse de l'écriture. L'écriture peut aller jusqu'à l'hyperdogmatisation, comme en mathématiques, si, ça peut aller jusqu'à quelque chose d'hyperdogmatique, hein, et la parole, au contraire, c'est indogmatisable et ça dédogmatise. C'est même pour ça que Lacan a fait 27 ans de séminaire, quand il a entendu Kojève, il a tout de suite vu et compris, il a été frappé, que Kojève, qui était du granit dogmatique en allemand et dans toute l'Europe, même quand on cherchait à le traduire, eh bien, comparé à les traductions d'Hippolyte, il ne s'agit pas de s'en prendre à Hippolyte. Hippolyte, il a fait son boulot. Il a traduit en français la phénoménologie de l'esprit, par exemple. Et Hippolyte, même Lacan l'invite, voyez-vous, à son séminaire pour parler de la négation. Mais le problème, c'est que Kojève, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a raconté en français la phénoménologie de l'esprit. Ça dédogmatise complètement. C'est plus de la langue de bois, c'est plus du granit. Bon. Et Lacan, il a compris qu'il fallait faire ça avec Freud. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il fallait le dire en français et faire des séminaires parlés pendant 27 ans, ce qui fait que les héritiers, ou ceux qui se revendiquent, les porte-paroles, qui prétendent représenter la psychanalyse en France, sont bien emmerdés, parce que même en français, c'est irrécupérable. Un discours parlé, c'est passé, ça passe. Il y a une fonction de antidogmatique, c'est impossible à couler dans le béton. Bon. Par contre, Lacan, il a laissé des écrits. Moi, je ne cache pas que je ne crains pas le dogmatisme, et même l'hyperdogmatisme, puisque je suis un lecteur des écrits et je fais des mathématiques dans le discours analytique. Donc, je reconnais parfaitement mon passage par la dogmatisation, mais lourde. Mais le problème, justement, c'est que pour dédogmatiser ça, il faut en parler. C'est une question de pratique du langage. Vous voyez, vous avez une écriture qui va vers une inertie qui est toujours le même, et la parole, c'est une inertie inverse, c'est jamais le même, c'est toujours autre chose. On se gourre, on fait des lapsus, on se trompe, on essaye de repasser dans les mêmes pas, on n'y arrive pas. Bon. Alors, donc, dans ces considérations générales, vous voyez, c'est pour vous dire le contexte dans lequel je me situe, et je voudrais reconsidérer tous ces problèmes avec des définitions assez précises, parce que je fais une part au dogmatisme. Les gens qui disent qu'ils ne sont pas dogmatiques et qu'ils sont contre le dogmatisme, je pense qu'ils se trompent eux-mêmes, parce qu'on a tous tendance à tomber dans ce genre de rigidité, appelez ça rigidité de la langue, peut-être l'organe, je ne sais pas, ou de rigidité mentale, je ne sais pas. Sous la son rigidité du moi, sa rigidité paranoïaque. Bon. Alors, il faut bien voir que j'ajoute avec ces exercices qui sont au tableau là, que j'ai commencé à dessiner, j'ajoute avec ce dont je vous parle déjà depuis deux fois, c'est la troisième fois cette fois, puis j'en ai parlé en septembre, nous reprendrons ça au mois de juin, il s'agit d'introduire là-dedans la définition de la séparation pour définir la répétition freudienne. Et je vous annonce tout de suite la couleur. Quand Lacan a fait son séminaire ici à l'École normale sur la répétition freudienne, parmi les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse en 1965, eh bien, depuis 65, et même avant, parce qu'il avait commencé à parler de la répétition dès le séminaire 2, avec la lettre volée, et comme il fait ensuite des petits calculs d'automates et de mémoire, on ne comprend pas très bien ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, c'est comment les liens de répétition se produisent pour créer justement un ordre, une syntaxe et une causalité à l'intérieur d'une chaîne. Bon, qu'est-ce que c'est que la répétition ? Je l'ai expliqué dans la première conférence que j'ai faite ici en janvier. Alors, la répétition, je vous dis, le prototype de la répétition, c'est Saint Augustin. Et on ne peut pas traiter de l'addiction, on ne peut pas prétendre parler de clinique, on ne peut pas parler d'anorexie mentale, on ne peut rien faire pour les autres, de toute façon, si on n'a pas la notion que pour parler avec, par exemple, un jeune gars ou jeune femme anorexique, hein, et bien ça sert à tout le monde sans doute, sauf Madame Chirac qui a une fille anorexique et qui a créé, grâce à la présidence de la République, pas loin d'ici, un hôpital spécialisé dans l'anorexie où on reçoit, où on n'est pas méchant avec les parents, comme s'il s'agissait de savoir s'il fallait être gentil avec les parents pour soigner l'anorexie. Donc ils en avaient marre d'être maltraités par les docteurs, parce que les docteurs, depuis Manoni, vous savez qu'il y a dit l'enfant arriéré et sa mère, l'influence de la psychanalyse fait qu'on marche sur les pieds des parents. Bon, c'est complètement con, mais les parents, ils ont quelque chose à faire dans l'histoire. Selon le problème, c'est qu'ils ne savent pas plus que les enfants, d'ailleurs pas plus que les docteurs. Alors de quoi s'agit-il dans la noétie? Si vous lisez saint Augustin dans les Confessions, vous voyez que l'enfant est né, il est pris d'une jalousie qui le rend blême devant son petit frère qui est au sein. Pourquoi? Bien parce que c'est pas le sevrage qui est le problème, ni dans l'anorexie, ni dans le désir. C'est pas le sevrage, c'est pas l'objet perdu, le fait qu'on lui retire le sein. L'enfant, il s'en fout, parce que le désir, c'est plus que ça. C'est ça la répétition. La répétition, c'est ce lien qu'il y a entre un corps et le placenta, par exemple, entre un corps et le sein de la mère, qui n'appartient pas au corps de la mère pour l'enfant, mais au corps de l'enfant, et qui n'est qu'un phanère, comme le dit Lacan, les plantes phanérogames, c'est plaqué sur le corps de la mère. L'enfant considère que ça fait partie de son corps et qu'on lui a, il l'a perdu, comme le placenta du mythe de la lamelle, qui est dans position de l'inconscient. Et c'est la même chose avec les excréments, notez-le bien. Donc ça vous donne une idée que la répétition, ça concerne votre relation que vous entretenez avec un certain type de valeur, souvent monétaire, qui est liée au papier, avec lequel on s'essuie, mais qui a tout à fait quelque chose à voir avec la pulsion anale. Donc ça crée des attachements, on va dire. Eh bien, vous avez là quelque chose avec le sein, n'est-ce pas, qui fait que ça ne sert à rien de dire à une jeune femme qui est en train de mourir, vous avez beau la mettre sous perfusion, on n'arrive pas à arrêter le processus, de lui dire, mais ma petite mademoiselle, mais quand même, regardez, c'est comme avec un drogué, quand vous lui dites, bon, l'alcool tue, le tabac va tuer, ça c'est les problèmes de santé publique, il ne faut pas tout confondre, vous comprenez. Les campagnes de santé publique, c'est une chose, ils essayent de faire des économies dans leur budget, mais ça n'a rien à voir avec la clinique. Hein. Il faudrait quand même arrêter d'être des complices de l'enfermement. Bon, moi, je reconnais qu'on peut très bien faire des campagnes de santé publique, mais ça n'a rien à voir avec le respect qu'on devrait avoir pour le discours analytique de Freud et de Lacan, et arrêter de s'essuyer les pieds dessus. Parce que la répétition, c'est ce lien absolu qui s'appelle désir, et qui fait que le sujet, il est prêt, c'est tragique, il est prêt à mourir plutôt que de reculer, et la plupart du temps, surtout à notre époque, il ne sait pas pourquoi. Donc ce qu'il faut dire à un anorexique, c'est la même chose qu'à quelqu'un qui vous dit que je vais me suicider. Vous lui dites que c'est mal pratique, ou c'est la fin de la vie, je ne sais pas, ou vous lui parlez de vos angoisses à vous. De toute façon, vous parlez de vous quand vous parlez. Bon. Et ce qu'il faudrait mieux essayer d'arriver à intégrer discursivement et même pratiquement, c'est ce lien répétitif qui n'est pas dans Nietzsche, Deleuze a essayé, différence et répétition, vous pouvez le chercher, il n'y en a pas la trace. Il a beau parler de l'instinct de mort, pour faire comme Freud, au-delà du principe du plaisir, qui d'ailleurs chez Freud s'appelle de l'autre côté du principe du plaisir, toutes ces questions sont à revoir, et c'est ce que je commence à faire ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un qui va mourir et qui est en train de mourir d'inanition, qui ne mange pas? Lacan nous dit, l'anorexique, c'est pas qu'il ne mange pas, c'est qu'il ne mange rien. Et qu'est-ce que c'est que le rien? Ben vous pourriez savoir, par exemple, vous, peut-être que vous parleriez autrement avec quelqu'un qui va mourir comme ça, si vous saviez ce que c'était que l'ensemble vide de Cantor. Parce que manger rien, c'est... Vous voyez, aujourd'hui, il y a arrobas, mais Lacan, il a inventé l'objet A, c'est une lettre. Et Cantor, il a introduit quelque chose qui s'écrit comme ça, qui s'appelle le vide. C'est très nouveau. Lacan, il nous dit, depuis que Cantor a écrit ça, il n'y a plus d'initiation possible sur la Terre. C'est fini les initiations. Faire rentrer les idéaux du groupe par les orifices corporels, ça ne marche plus. Nous ne sommes plus à l'époque des maîtres, de l'initiation. Il suffit plus, quoi qu'en disent les gendarmes qui adorent les pédophiles,
il suffit plus de toucher les fesses des petits garçons, des petites filles, pour les initier, pour leur apprendre le compagnonnage, à travailler dans un artisanat. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans le monde de l'enseignement. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'un professeur et qu'est-ce que c'est que le savoir? Et comment réussir à produire du savoir sans tomber dans le marché du savoir qui, pour Lacan, est une horreur? C'est une escroquerie monumentale, parce que le savoir, ça ne peut pas se vendre. C'est une escroquerie que de vendre son savoir. Lacan explique très bien pourquoi dans l'un autre à l'autre. Hein. C'est que c'est la même chose que le travail, le savoir, ça produit du plus de jouir. Mais le travail, ça demande un effort, ça demande une participation du corps, alors qu'au contraire, le savoir, il faut se retenir. Quand ça vous traverse le corps, le langage, par les oreilles, ça rentre dès le trauma, hein. Au lieu de vous mettre à crier « Youpi, Eureka, j'ai trouvé », vous vous retenez un peu et peut-être que vous écrirez quelque chose. Et peut-être qu'en écrivant quelques gribouillis, vous découvrirez quelque chose. C'est comme ça que font les mathématiciens. Hein. Donc dans la psychanalyse, la générosité de Freud veut qu'on dise aux patients « Dites tout ce qui vous passe par la tête ». Mais on ne dit pas tout le temps en train de dire « Youpi, formidable, je viens de penser à ça ». Non, et le problème c'est qu'on lui dit... Le problème, c'est qu'on est en train de repérer justement dans le transfert à quel endroit il ne dit pas. Pourquoi est-ce qu'on demande aux patients de parler? Pour voir où est-ce qu'il ne parle pas. Où est-ce que justement il se retient. Vous voyez? Et là, quand on dit le savoir, ça, si on se retient, eh ben, ça va donner du savoir et ça va donner du plus de jouir. Mais ça ne demande aucun effort.